Dans l'une des conversations que nous avions souvent au cours de nos promenades, Levi me racontait que quatre amis de jeunesse devinrent dans leur vieillesse de savants talmudistes. Mais chacun d'eux eut un destin différent. L'un devint fou, l'autre mourut, Rabbi Eliezer devint libre penseur à l'âge de 40 ans, et seul leur aîné, Akiba, qui n'avait commencé à étudier qu'à 40 ans, parvint à la connaissance absolue. David Bannon, bonjour.
Bonjour.
David Bannon, vous êtes philosophe, professeur des universités et l'un des plus grands spécialistes contemporains de l'interprétation des textes de la tradition juive. Les auditeurs de Talmudique vous connaissent déjà puisque je vous avais reçu en juillet dernier pour évoquer l'école de pensée juive de Paris. Je sens votre surprise devant ce texte que je viens de lire qui vous semble familier et à la fois étrange puisqu'il ne correspond pas tout à fait à la version classique de cette histoire que l'on trouve dans le Talmud. Est-ce que vous avez reconnu l'auteur de ce texte ?
Non, je ne l'ai pas reconnu, mais j'ai reconnu en tout cas sa référence au texte talmudique.
C'est un texte du journal de Kafka du 28 octobre 1911. Et si je l'ai cité en ouverture de notre conversation d'aujourd'hui, c'est pour souligner à quel point ce texte est connu et circule et est paradigmatique de l'esprit du Talmud. Le texte original se trouve dans le traité talmudique Chagiga 14b et raconte que quatre rabbins sont entrés dans le Pardès, littéralement le paradis, texte auquel David Bannon, vous avez consacré tout un chapitre dans votre livre qui, soit dit en passant, reste pour moi l'un des plus beaux et des plus profonds livres sur l'interprétation des textes de la tradition juive.
Vous êtes gentil.
Non mais je suis profondément sincère. D'ailleurs, j'ai pas dit le titre de ce livre, le livre qui s'appelle « La lecture infinie ». Et donc le texte est le suivant. Quatre sont entrés dans le paradis, Ben Azaï, Ben Zoma, Acher et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva leur dit « Quand vous atteindrez les pierres d'albâtre pures, ne dites pas « Mayim, Mayim, oh, oh » car il est écrit « Celui qui profère des mensonges » ne demeurera pas en ma présence. » Le premier rabbin, Ben Azaï, contempla et mourut. C'est à lui que s'applique ce verset « Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la mort de ses justes. » Ben Zoma contempla et fut frappé, c'est-à-dire qu'il devint fou. C'est à lui que s'applique « As-tu trouvé du miel ? Mange-en à ta suffisance, mais évite de tambourer, tu le rejetterais. » Acher, le troisième rabbin, arracha les plantations. On va expliquer ce que ça signifie. Le quatrième rabbin, Rabbi Akiva, sortit en paix. Certains commentateurs interprètent ce texte comme une expérience mystique de quatre maîtres et en soulignent les dangers qui vont de la mort à la folie et à l'hérésie. Seul Rabbi Akiva s'en sort indemne. Il entre et sort en paix. Bien évidemment, tous les commentateurs s'interrogent sur ces mystérieuses pierres d'albâtre, ou de marbre selon d'autres traductions. Pourquoi aurait-il été poussé à s'exclamer « Oh, oh, Mayim, Mayim » Qu'a vu le premier pour mourir et le second pour devenir fou? Pourquoi arracher les plantations a été compris comme hérésie? Que possédait Rabbi Akiva qui l'a protégé de tous ces dangers? Laissons, si vous le voulez bien, ces questions en suspens. Peut-être pourrons-nous y revenir au cours de cette conversation. Votre interprétation, David Bannon, suit, elle, celle d'autres commentateurs qui lisent ce texte non pas comme un voyage mystique, mais comme l'expérience des différentes lectures que l'on peut faire d'un texte. Différents niveaux d'interprétation ou, selon votre formulation, quatre étapes de la compréhension à propos desquelles vous dites, en citant le texte qu'on vient de lire, « On ne s'aventure pas sans risque sur les chemins de la connaissance » fut-il balisé. L'interprétation est une science que l'on ne pratique pas impunément. J'aimerais que l'on reprenne, dans l'ordre, le sens du mot Pardès d'abord et celui de ces quatre étapes de l'interprétation, David Bannon.
Oui, le sens du mot Pardès, vous l'avez traduit par paradis. C'est une traduction qui est très acceptable, mais je pense qu'il faudrait peut-être le traduire par jardin de la connaissance. C'est un itinéraire qui est balisé, qui passe d'après les maîtres de la tradition juive, qui passe de la lecture littérale à la lecture secrète ultime par l'intermédiaire de l'allusion et par l'intermédiaire de l'interprétation du remez et du drash. Il faut dire que on ne sait pas si c'est une méthode de lecture originellement juive, parce que nous trouvons ces quatre niveaux de lecture au Moyen-Âge chez les chrétiens. Et donc peut-être que il y a eu une manière ou bien un passage, une osmose entre la manière de lire de nos sages et la manière de lire des sages des nations. Ce qui est sûr, c'est que généralement on voit cela comme quatre niveaux de lecture, et c'est une dialectique ascendante qui passe du pshat, du sens obvi, à l'allusion, ensuite à l'interprétation, et ensuite au sens qui est dissimulé, secret. Mais je pense que il faut ajouter une cinquième étape. La cinquième étape, c'est que, chargé de toutes ces allusions qu'on a collectées à chaque étape, à chaque niveau, on doit revenir vers le texte et lire le texte avec toutes les allusions de sens qu'on a collectées ici et là à chaque étape. Et à ce moment-là, on découvre que la lecture littérale est une lecture qui n'est pas seulement le sens donné, obvi, qui est sous la main, mais qui est un sens qu'il faut longtemps travailler pour pouvoir dégager un éclat de ce sens.
Alors, comme dit Rashi, Rashi, le grand commentateur, cite souvent cette expression. Il dit « Le verset ne sort pas de son pshat, de son sens littéral », mais il ajoute tout de suite que s'il y a un sens littéral, c'est qu'il y a plusieurs sens. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que le sens littéral n'est pas le sens premier, mais celui que l'on atteint après avoir parcouru l'ensemble des possibilités du texte pour gonfler, si on peut dire, le texte de toute la richesse des lectures possibles. La question, alors vous avez cité les quatre niveaux d'interprétation ou la théorie des quatre lectures dans le christianisme. Il faudrait préciser que dans le judaïsme, quand on parle de quatre niveaux d'interprétation sur un verset ou sur un mot, ce n'est pas un dictionnaire préétabli d'interprétation, mais plus des méthodes, des chemins, des outils qui laissent au lecteur la plus grande créativité pour comprendre le verset ou le mot à tel et tel niveau d'interprétation. Et je voudrais revenir sur le terme de pardès, parce que certes, on peut le traduire par jardin de la connaissance, je pense que c'est sa véritable signification, mais si les rabbins ont choisi le mot pardès, c'est parce qu'il est l'anagramme des quatre niveaux d'interprétation que vous venez de citer, le sens littéral, le pshat, c'est la lettre P, le remez, l'allusion, le R, le drash, l'interprétation, c'est le D, et le sod, le secret, c'est le S de ce pardès. Alors, revenons à ces quatre niveaux pour essayer d'en donner des exemples, ou en tout cas de comprendre même les termes qui les nomment. Pshat, dites-vous dans votre livre, vient du verbe leafshit, qui veut dire déshabiller.
Oui, qui veut dire déshabiller, dévêtir, comme si le texte était recouvert, disons, d'un voile qui empêche de d'y pénétrer. Et donc, il faut d'abord dévêtir, enlever ce voile, ôter ce voile, pour essayer de rentrer directement dans le verset. Ça, c'est le pshat. Mais, le pshat, c'est aussi les hit pachet, c'est-à-dire se répandre, mais se répandre latéralement. C'est-à-dire que la lecture littérale est aussi une lecture latérale. Je suis obligé de regarder le contexte proche et le contexte lointain pour pouvoir dégager le sens littéral ou le sens obvi.
C'est-à-dire que le sens latéral, de ce sens littéral, j'aime beaucoup le jeu de mots, vient nous faire comprendre que l'accès direct au verset que est une illusion. Que le pshat comme accès direct, une fois que l'on a déshabillé le texte, est une illusion et que cette latéralité est comme si le vêtement qu'on venait d'enlever recouvrait à nouveau le texte. Et il faut donc non plus comprendre ce texte dans son niveau premier, mais déjà le mettre en résonance avec d'autres textes. C'est peut-être le deuxième niveau qu'on appelle le remez.
C'est cela, c'est-à-dire que ce n'est plus une lecture qui est directe, mais une lecture oblique. Et donc, on est obligé, puisque on se meut dans la latéralité ici, on est obligé de passer déjà, une fois qu'on a fait ce travail, de passer au deuxième niveau qui est l'allusion. Il y a toujours un clin d'œil dans le verset, et ce clin d'œil nous mène parfois dans des paysages textuels ou contextuels qui sont des paysages lointains et qui rejaillissent sur le verset que nous sommes en train d'étudier pour nous donner une direction de sens, pour nous orienter vers la signification.
Comme dit Lévinas, c'est un parfum de sens. Alors, pour donner un exemple concret, je crois que c'est très très clair dans votre explication. On a d'abord un verset ou un mot, mais tout de suite, on va vers le côté, cette latéralité proche, et quand on va vers une latéralité lointaine, donc dans une sorte d'intertextualité, à ce moment-là, on est au niveau du remez. Et deux passages très très éloignés l'un de l'autre dans la Torah deviennent frères, si on peut dire, parce qu'ils ont par exemple le même mot. Et c'est cette intertextualité qui est créée par le même mot qui fait qu'on va pouvoir découvrir des sens nouveaux. Je pense qu'il faut prendre un exemple ici d'intertextualité.
Si on prend un exemple qui est, puisqu'on connaît tous le premier verset de la Bible, alors dans le commencement ou au commencement. Les commentateurs, eux, ne s'occupent pas du bet de Bereshit, c'est-à-dire au commencement ou dans le commencement, et rapprochent le Reshit, le commencement, d'une autre Reshit, c'est-à-dire l'origine, le fait de pouvoir donner. De faire un don, de pouvoir aller prélever quelque chose.
Vous faites allusion au fait que dans le mot Bereshit, qui veut dire avec le commencement, le même mot Reshit est utilisé pour dire les prémices de la terre que les hommes doivent amener au temple. Et donc, ça c'est le mot Reshit. Reshit veut dire prémices de la terre que l'on donne. C'est de l'ordre donc de l'offrande. Et si on fait maintenant ce rapprochement entre les deux versets, Bereshit n'est plus lu au commencement, mais avec l'offrande. Le monde a été créé, le ciel a été créé, et le fondement ontologique du monde devient cette capacité de donation et donc une sorte de relation éthique de l'un à l'autre, parce que lorsqu'il y a don, c'est qu'il y a une reconnaissance de l'altérité d'autrui. Et là, on voit comment un verset qui est très loin dans le texte de la Torah va illustrer, va non seulement illustrer, mais va donner sens au premier. C'est ce qu'on appelle le remez. C'est-à-dire que le mot réchit, le premier réchit, a fait un clin d'œil à tous les autres mots réchit que l'on va trouver dans le texte de la Torah et qui vont éclairer en retour ce premier réchit.
Et ça nous permet aussi de comprendre que la création, s'il y a eu création par un créateur, c'est un bienfait que le créateur a fait aux créatures. Là aussi, il y a un don de la part du créateur vis-à-vis des créatures. Donc il y a là ces commencements, prémices, dons, et je pense que vous avez raison d'insister sur le fait que il y a là une lecture qui est une lecture éthique et plus une lecture métaphysique ou une lecture mystique qui pourrait être une lecture mystique.
C'est-à-dire qu'on aurait pu rester dans la création du monde comme création cosmologique et tout à coup le remez, le deuxième niveau d'interprétation, fait sortir cette lecture littérale d'un commencement du monde vers sa possibilité même du commencement. C'est-à-dire que ce n'est pas le commencement du monde dans l'histoire, mais c'est le fondement du monde, c'est-à-dire le fondement du monde à chaque instant du monde. À chaque instant du monde, le monde existe et recréé par l'éthique du don et l'éthique de la reconnaissance de l'autre à qui je dois donner quelque chose. À ce moment-là, ça nous permet d'arriver au troisième niveau d'interprétation, qui est celui du drash.
Mais avant le troisième niveau, j'aimerais juste ajouter une petite remarque. Il est vrai que la dimension éthique est importante dans ce que nous avons dit au sujet des prémices. Mais les prémices, c'est ce que nous recevons du Créateur. Et donc nous recevons de lui et nous lui donnons ce que nous recevons de lui.
Je comprends la remarque. Vous voulez dire que ce n'est pas un don à sens unique, mais que nous sommes déjà dans la dimension de l'échange, je dirais pas commercial, mais du don presque et du contre-don, comme disait Mauss. C'est-à-dire que et on comprend la bénédiction que l'on fait lorsque l'on mange du pain, à motzi lechem min haaretz, qui a fait sortir du pain de la terre. C'est-à-dire que l'homme, ce commencement du monde que vous nous expliquez, nous fait comprendre que l'homme doit toujours être vigilant. Qu'être au monde, c'est déjà recevoir du monde. Mais qu'être au monde, c'est d'emblée redonner à l'autre et que on rentre dans une dynamique de la création par cette lucidité de la réception et par cet engagement de l'engagement du don.
Oui, en un mot peut-être que posséder, c'est recevoir et posséder, c'est donner.
Alors ça, c'est je crois, admirablement formulé, mais c'est pour cela que je crois que ce qui est important, c'est que dans ce que vous avez dit précédemment, vous avez évoqué le fait qu'il y ait un créateur. Et on aurait pu croire, dans vos mots et dans les termes que vous avez utilisés, et la tonalité, que vous étiez encore dans le discours théologique. Et là, vous venez de nous faire comprendre qu'on a basculé du discours théologique et ou du créateur comme de la création comme créée par un créateur qui resterait une information, je dirais, théologico-métaphysique à sa transposition, sa traduction, à sa métamorphose en dimension éthique. Et on peut peut-être dire que plus on part du pshat, du sens littéral vers les étapes supérieures, il y a une modification de la tonalité de lecture du texte. Alors,
exactement.
Quelle modification amène le troisième niveau d'interprétation, David Bannon ?
Oui, alors le drash, et là on est dans un niveau où la liberté d'interprétation est très grande, mais elle est sous-tendue par une cohérence très réelle. C'est-à-dire que le drash, ce n'est pas seulement une interprétation avec une imagination débordante ou une interprétation qui serait une interprétation sauvage. Il y a ce que Paul Ricoeur appelle une productivité normée. Il y a ce qu'on peut appeler une transformation normée. Et cette transformation, elle peut là aussi jouer au niveau du verset ou au niveau, par exemple, d'un mot ou d'une expression. On pourrait, par exemple, illustrer ce propos en disant que
si on reste par exemple sur le mot réchit, et je pense à cette assertion du commentateur Rashi qui dit toujours le verset nous dit darcheni, darchouni, ça veut dire interprète-moi. Donc il y a une sollicitation de la part du verset, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le verset qui est tellement étrange que nous sommes interpellés et de répondre, c'est-à-dire d'avoir la responsabilité de répondre à l'interpellation du verset, ça serait le drash. Comment, par exemple, dans ce mot bereshit, qui veut dire au commencement, nous sommes sollicités, nous sommes questionnés, nous sommes interpellés. Qu'est-ce qui fait problème dans ce bereshit, dans ce au commencement?
Qu'est-ce qui fait problème dans ce au commencement? Au commencement de quoi?
Oui.
Est-ce qu'il y a une origine? La question ici de l'origine et la question du commencement, elle s'impose dès la première lecture. Or, nous savons très bien que il y a une création d'avant la création. C'est ce que les textes disent. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas saisir, maîtriser, s'approprier ce commencement et cette origine. Et ça, nous le savons parce que nous avons vécu au XXe siècle ou au XXIe siècle et on sait très bien qu'on n'arrive jamais à reconstituer l'origine, à saisir cette origine parce que d'abord, par exemple, du point de vue de la psychanalyse, je ne peux pas, moi, savoir comment et quand et à partir de d'où je sais que j'ai un père et une mère, mais je n'étais pas là quand ils m'ont conçu.
C'est-à-dire que aussi loin qu'on puisse remonter dans la mémoire, dans notre propre mémoire ou dans la mémoire du monde, il y a toujours quelque chose qui va échapper à la possibilité de notre connaissance, ce qui produit une tension vers l'infini. Alors à ce moment-là, je traduis en hébreu ce que vous venez de dire en français, c'est-à-dire que dans le verset, qu'est-ce qui vous a interpellé pour que vous alliez dans la direction de cette interprétation, dans ce drash? C'est le fait que l'alphabet, dans l'ordre, commence par Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Il y a un ordre de l'alphabet. Et en fonction de cet ordre, les commentateurs disent, il aurait été absolument logique que le premier mot de la Torah commence par la lettre Aleph. Or, en commençant par Bereshit, elle commence par la lettre Bet, par la lettre qui veut dire à la fois deux, et que quand on dit nous commençons, nous sommes déjà dans le déjà commencé. Et à ce moment-là, cela produit la question que vous avez formulée et l'interprétation que vous avez proposée. David Bannon, je sais que vous êtes surpris d'entendre cette musique des Pink Floyd. C'est un morceau qui n'est pas connu et que j'ai choisi parce qu'il y a ce magnifique mouvement des rames que l'on entend fendre l'eau. Et comment comprenez-vous cette présence de l'eau dans le Pardès, dans votre interprétation du Voyage des Quatre, comme expérience herméneutique, expérience de lecture plurielle, comme on vient de l'évoquer. On a dit, quand on a lu le texte au début, Rabbi Akiva dit à ses compagnons, quand vous arriverez en haut, si vous voyez le marbre pur, ne dites pas de l'eau, de l'eau. David Bannon.
Oui, c'est une interprétation qui est difficile. Je pensais, moi, au niveau de la compréhension de ce passage talmudique au niveau herméneutique, je pensais que l'eau est le symbole de la Torah. Ici, il me semble pas, peut-être pourrait-on dire que là aussi, c'est le symbole de la Torah, mais il faut faire très attention. Il faut peut-être faire très attention de ne pas se saisir de la Torah sans prévention, sans se référer aux sages de la tradition qui ont, eux, déjà frayé des chemins de signification à l'intérieur de la Torah. Alors, peut-être que Rabbi Akiva a voulu avertir ses compagnons de route en leur disant « Faites attention, ne pensez pas que vous pouvez vous saisir de la Torah écrite comme quelqu'un qui ouvrirait n'importe quel livre et qui pourrait y entrer directement. »
Alors, j'entends ce que vous dites et je me suis demandé est-ce que ça serait pas aussi le fait que quand il y a quelque chose qui nous arrête, qui est dur comme le marbre, qui nous questionne, de ne pas dire de l'eau, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de fluide, de l'ordre du fluide et que l'on va continuer justement, qu'on va laisser couler, mais qu'on doit accepter d'être arrêté par la dimension qui fait bloc devant nous et qui va nous interroger. Et même si on n'est plus capable d'aller au-delà, être accepté de s'arrêter. Et je me suis demandé, est-ce que c'est pas ce niveau qui tout à coup va nous faire passer au quatrième niveau d'interprétation qui est le sod? Et je me suis demandé aussi si ce marbre pur ne faisait pas penser au blanc qu'il y avait entre les mots, les phrases et les chapitres, jusqu'au blanc entre les lettres et les consonnes, et qui est un des thèmes essentiels, me semble-t-il, de votre interprétation du Pardès, David Bannon.
Alors, d'abord, j'adhère à ce complément d'interprétation que vous donnez du marbre, qui est le symbole de la résistance. Le texte résiste à une lecture qui pourrait être une lecture hâtive ou une lecture qui serait une lecture sauvage, disons, comme on a dit tout à l'heure. Il est vrai qu'il faut prendre, il faut respecter cette altérité du texte et il faut l'interroger en tenant compte de cette résistance et de cette altérité, de l'aspérité des versets, des nodalités qui sont à l'intérieur du discours biblique ou du récit biblique, et essayer de les dénouer, essayer de se frayer
essayer de les dénouer ou accepter justement de se retrouver dans le silence, c'est-à-dire dans l'humilité d'un ne pas savoir. Et peut-être que vous ne répondrez pas à cette question. Ça sera le sod de cette émission, parce que nous sommes déjà, David Bannon, arrivés à la fin de cette émission. C'était absolument passionnant, vraiment formidablement réjouissant de dialoguer avec vous. Et là, il y avait une interprétation que je voulais amener, qui était celle d'André Néer. Je vous propose que nous nous retrouvions la semaine prochaine pour évoquer l'interprétation d'André Néer et d'évoquer de manière générale la pensée de ce grand philosophe André Néer.
Que l'on connaît tous les deux.
qui est l'un des grands maîtres qui nous a conduit à mieux comprendre tous les deux le sens même de ce Pardès. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin, préparée avec Françoise-Anne Ménager. Aujourd'hui, à la prise de son, Alain Joubert, réalisation d'Annie Journeau. Vous retrouverez toutes les informations bibliographiques et musicales sur le site de l'émission. Kol Touv, Leitraot, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.